3, 2, 1. Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 2 de la saison 3 de Dans le Mille, en compagnie de Renaud, comme d'habitude. Comment ça va?
Ça va bien, puis toi?
Ça va très bien. On a enfin eu du hockey du Canadien, avec l'uniforme du Canadien, là, bel et bien. En fin de semaine, donc c'est sûr que là, c'est cool. Et là, il y avait le tournoi de golf lundi. Donc, c'est
Ouais.
le début de la saison, c'est toujours
Donc,
excitant.
aujourd'hui, on vous parle juste du tournoi de golf. Qui a réussi quoi?
Qui a fait les bons shots?
Mais non, mais comme vous avez compris, on va parler des deux matchs des recrues. On vous parle aussi des nouveaux logos de la PWHL ce soir, LPHF. Pour ceux qui nous regardent, on serait curieux de savoir. Tantôt, on va vous dire, nous, c'est quels nos préférés, mais vous, c'est quoi, admettons, votre top 3 ou votre logo préféré, des nouveaux logos de la LPHF? Sinon, on ne va pas trop s'attarder là-dessus parce qu'on ne sait pas encore comment ça va être intégré et tout, mais aujourd'hui, il y avait la conférence média pour les nouveaux joueurs qui arrivent dans la LHMQ. On a vu l'annonce d'un nouveau trophée, en fait, le même trophée qui s'appelait Selke avant dans la LHMQ, qui change de nom maintenant, ça va être le trophée David Desharnais. Pour rendre hommage à un joueur qui l'avait gagné, je pense, 3 fois quand il était dans la LHMQ. Et puis, un petit détail quand même intéressant qu'il y a eu dans la conférence de presse qu'ils nous ont transmis après, c'est une nouvelle règle qui va être mise en place. Fait que je vous la lis. Si un joueur met en échec de façon inattendue de provenance latérale ou arrière un adversaire qui contrôle la rondelle ou récupère une rondelle libre, ce geste sera considéré comme étant illégal. Bon, donc, comme j'ai dit, on va pas trop s'attarder dessus parce qu'on ne sait pas encore comment est-ce que c'est appliqué, comment est-ce que c'est mis en place, mais je trouve ça un peu ambigu comme façon de dire une règle, là, en gros. Donc, comment est-ce que les arbitres vont interpréter ça, puis comment est-ce que ça va impacter le jeu dans la LHMQ, mais à la fin de la journée, si ça protège un peu plus les joueurs, tant mieux, tant que c'est bien appliqué.
Mais moi, je suis d'accord dans le sens que c'est toujours comment tu l'appliques. Parce qu'une règle comme ça qui est écrite, après, moi, je trouve que ça peut quand même ne pas être tant ambigu dans le sens que tu le vois clairement que c'est quand c'est un coup sournois. Puis mettons, là, je vais te donner une petite parenthèse. Ben, pas une parenthèse, mais comme un exemple de, mettons, le coup qui a été fait
Ouais.
sur Rotin. C'est un coup un peu, justement, qui rentrerait dans cette catégorie-là de justement être loin de la rondelle, qui regardait pas dans la direction. Donc, tu sais, je sais pas. Moi, j'ai hâte de
Mais
voir, est-ce que ça va, tu sais, pour les bagarres, ça a vraiment été très clair. Donc, est-ce que ça va être bien appliqué?
là, c'est plus c'est l'aspect l'adversaire qui contrôle la rondelle. Ça va être curieux, genre de voir comment est-ce que c'est appliqué. Est-ce que c'est comme contrôle? Tu sais, quand tu viens juste de faire une passe, techniquement, c'est encore toi le dernier qui a touché la rondelle, fait que tu as un contrôle, mais tu es très vulnérable à des frappes. Tu sais, ou bien est-ce que c'est vraiment tous les temps, quand tu as la rondelle, tu peux pas te faire frapper par derrière? À voir. Mais sinon, écoute, rentrons dans nos partenaires de l'épisode. Puis après ça, comme on vous a dit, LPHF et match des recrues. Donc, je te laisse commencer avec Elite Prospects.
Ben, tout simplement, tu l'as dit, Elite Prospect, donc avec le code DLM30, vous avez 30% de rabais pour atteindre le profil premium. Donc vraiment, ça vous donne plusieurs avantages, là, donc les fraternités, donc les liens de combien de temps les joueurs ont joué avec d'autres joueurs et
Comparer
vraiment
des joueurs.
comparer des joueurs, avoir se faire des bookmarks et beaucoup plus élaborés que seulement avec le compte. Mais moi, mon truc préféré, c'est de voir les performances de chaque match. Donc, il y a un endroit où est-ce qu'on peut voir, en fait, à chaque match, c'est
Ouais, un game log.
combien de temps ils ont joué, avec qui et tout. Donc, ça, c'est vraiment ma partie préférée.
Donc, DLM30 pour 30% de rabais sur un compte annuel. Le deuxième partenaire, Perfo Elite. Donc, pour tout ce qui est vos besoins d'entraînement, que ce soit tout seul ou en équipe, que ce soit des entraînements mentaux ou sur glace, vraiment de performance, Perfo Elite ont une énorme équipe d'expérience d'entraîneurs qui sont là pour assurer justement le suivi de vos joueurs, que ce soit un joueur en particulier ou bien en équipe. Fait que c'est intéressant pour les coachs, les parents, peu importe, tous ceux qui veulent améliorer tout leur aspect de leur jeu. C'est intéressant. PerfoElite.com. Écoutez, rentrons dans le premier sujet parce que le match des recrues, même si c'est juste des matchs de préparation, tu sais, ça vient confirmer un peu, regarder certains trucs. Fait qu'on va avoir beaucoup à parler. Puis en plus, on a l'alignement du vrai camp du Canadien. Donc, on sait quels joueurs restent un peu. On a quelques nouvelles. Fait qu'on va avoir longtemps à parler dessus. Mais en premier, un sujet un petit peu plus léger, un petit peu plus le fun, moins technique. On va vous parler des nouveaux logos de la LPHF. Donc, là, ce qu'on a fait pour ce segment-là, parce que, écoutez, on ne va pas décortiquer tous les logos en détail, expliquer qu'est-ce que ça veut dire, les noms, tout ça. On a juste fait chacun un top 6. On va vous le dire, on va en parler un petit peu, puis après ça, on rentre dans le hockey des Canadiens. Fait que, écoute, je te laisserai commencer avec ton numéro 6. Toi, ce serait quoi? Je suis curieux.
Donc, pendant ce temps-là. Ils sont là. Donc, c'est. Premièrement, moi, je veux juste dire qu'ils avaient dit que pour la deuxième année, on allait avoir des logos puis des noms. Fait que déjà, ils sont respectés leur promesse. Puis moi, en sixième, ben, je vais y aller carrément avec l'équipe que je trouve qui a été le moins originale, puis c'est le Minnesota Frost. Nous, à Montréal, on a été très au courant de cette équipe-là, là, la force, et je trouve vraiment que c'est la même chose. Par la suite, moi, pour mon évaluation, j'y suis allé pour le nom, l'esthétique. Et quand je dis esthétique, ça va être la police qu'ils ont utilisée, un peu l'originalité de justement cette police-là, et aussi le logo en tant que tel. Et moi, justement, le logo, je le trouve très, très, très ordinaire, avec un nom qui est bien correct pour Minnesota. Mais en tout cas, moi, je trouve que dans les six, c'est vraiment celle qui venait moins me chercher.
Moi, c'est le Ottawa Charge. Puis même si j'ai pas de problème avec le nom, ils ont essayé de faire quelque chose de bilingue. Genre Charge en général, c'est juste que je trouve le logo tellement laid que ça l'a baissé en sixième place. J'aime le concept, mais c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Ils ont essayé de faire la rondelle un peu au milieu. Ils ont complètement volé sur la bande. C'est des blagues. Mais je trouve que c'est leur logo est pas beau. Tu sais, en tant que tel, là, dans le nom, dans la police qu'ils ont utilisée en dessous, j'ai pas de problème avec ça, mais le logo est tellement laid que. Moi, je l'ai mis en sixième position. En cinquième, moi, ça serait les Sirens de New York. Les couleurs, j'ai pas de problème avec. C'est plus le logo, on dirait encore une fois, on va en parler, là, mais on dirait un logo un peu secondaire. J'ai pas l'impression que c'est autant, ça a l'air autant d'un logo principal comme les autres équipes. Puis il y a beaucoup de personnes qui disaient en ligne, oh, Sirens, il aurait pu jouer un petit peu plus dans la créature mythique. Il y aurait eu vraiment des concepts cool. Là, Ottawa, j'ai dit que je le trouvais laid. Siren, je le trouve pas laid. C'est juste que dans les cinq, c'est celui qui me parle le moins. Puis à la base aussi, les couleurs de New York, c'est les couleurs qui me parlent le moins. Même si, comme j'ai dit, c'est pas dégueulasse. Là. C'est juste celui qui me parle le moins.
Ben moi, pour mon cinquième, ça va être Toronto. Parce que comme tu l'as dit, moi, tu vas voir plus tard que je suis pas d'accord avec toi pour les Sirens. Mm-hmm. Mais le logo de Toronto, c'est vraiment pour moi un patch que tu mets sur les épaules d'un chandail. Donc, c'est pas un logo qui va être le centre de ton branding. Je trouve que, justement, on l'a pas tant poussé. Ensuite, bon, il y a du monde qui disent que scepteuse ou sceptre, c'est un mot qui est difficile à dire. Moi, je trouve pas particulièrement. Là, c'est pas pour ça que je l'ai mis cinquième. Sceptre. Mais c'est juste que, en tout cas, moi c'est ça. Après le Frost, je trouve que le Toronto, c'est l'équipe qui vient moins chercher de mon côté.
Mais ça suit bien parce que moi, c'est mon 4 pour un peu les mêmes raisons. Je trouve que le logo est beau, mais ça fait plus patch. Le nom, il y a le mérite d'être original. La couleur est belle. Ça va bien sortir avec le bleu de Toronto s'il garde du bleu sur le jersey, ce que je pense qu'il plante. Mais juste à cause du logo secondaire, puis, tu sais, Scepters, oui, c'est original, c'est cool parce qu'on n'en a pas entendu parler, mais est-ce que c'est un nom qui, tu sais, explose son esprit, que t'es comme, waouh, j'aurais jamais pensé à ça? Non. Ouais, fait que moi, il est 4, puis Jules, il est 5. Fait que c'est avec ton 4.
Ben, moi, mon 4, c'est Ottawa. Puis, la raison pourquoi il est au-dessus du sceptre, c'est vraiment à cause de la police. Mm-hmm. Je trouve intéressant, justement, le charge. Je le trouve cool. Mais le logo, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une photo de Andrew Mangiapane qui avait été un peu défié à dessiner le logo des Flames de Calgary. Et on dirait vraiment qu'ils ont pris sa suggestion pour Ottawa. Donc, c'est ça. Moi, je trouve que, justement, le logo est pas fort, mais le branding autour est nice. Donc, c'est pour ça que je les mets quatrième. Donc, c'est un peu un équilibre. Et là, bon, on n'a pas encore pu parler, mais bon,
Ben,
Jean-Sébastien Millette, il dit que la victoire, c'est vraiment pas de son goût.
Jean-Sébastien Millette, il a pris notre question, on a demandé un top 3.
Ouais,
Nous, il nous a donné son bottom
son
6.
Bottom 6, donc
Mais
c'est parfait, on aime ça.
merci de ton commentaire, Sébastien, pour le numéro 3. Je te
Ouais,
laisse y
pour le
aller.
numéro 3, ben moi, c'est Boston Fleet. J'aime le logo parce que Boston, justement, c'est quand même une ville portuaire. Bon, on le sait avec le Boston Tea Party, hein, il y a toujours eu des bateaux dans cet endroit-là. Et par la suite aussi, j'aime la police, mais j'aime vraiment le détail des petites vagues dans le baie. Puis je trouve que ça pourrait vraiment. En tout cas, on n'a pas encore vu les uniformes parce que ça serait plus pour vers novembre, décembre, si je me trompe pas.
Ouais, ils ont dit à la conférence de presse
C'est
fin
ça.
octobre, début novembre.
Donc, on va pas voir encore, mais je trouve vraiment que le logo, il est simple, mais il est beau. Puis avec les petites vagues, je trouve vraiment que ça ajoute quelque chose. Donc, moi, c'est mon numéro 3.
Moi, mon numéro 3, c'est le Minnesota Frost. Le logo, je suis 100% d'accord, c'est de la récupération de la force. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas le faire, puis finalement, ils l'ont fait. Mais le nom match tellement bien avec Minnesota.
Ouais.
La couleur est belle. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de la police d'Ottawa. Je suis d'accord, la police d'Ottawa est vraiment cool. J'aime beaucoup la façon dont le charge est écrit. Mais Frost aussi, je trouve que les petits détails sur les lettres sont vraiment très bien pensés. C'est que le seul bémol que j'ai avec leur logo, ben avec tout leur branding, dans le fond, c'est vraiment le logo. Faites quelque chose un peu différent que ce qu'on a déjà vu. Pour le numéro 2, c'est celui que toi, tu viens de dire, le Boston Fleet. La couleur match vraiment bien avec Boston. Je pense que à la base, c'est pour ça qu'ils l'ont pris, puis ça match vraiment bien avec leur logo. Leur logo, je suis pas en amour avec, mais ça représente bien le nom. Ça serait cool de voir quelque chose un petit peu plus dans le type navire, je sais pas. Mais le logo, pour le moment, est quand même reste joli. L'angle, c'est cool. Puis, encore une fois, on parle de la police. La police de Boston Fleet, je la trouve autant belle que celle du Frost. Là. Ça fait comme vitesse. Là. J'aime ça.
Puis donc là, pour le top 2, je pense que, là, toi, tu l'as dit, moi, il va me rester entre les Sirens puis Montréal. Fait que, regarde, j'ai bien compris que le numéro 1 pour toi, c'est Montréal. Moi, ça ne l'est pas. Moi, Montréal est en deuxième et New York est en premier. Je pense qu'après, c'est des goûts personnels. Comme
ben
toi,
oui.
Les couleurs de la Sirens ne viennent pas te chercher. Moi, ils viennent me chercher. Et aussi, j'aime le NY qui est caché derrière le Sirens. Après, pourquoi j'aurais pu mettre Montréal devant? C'est par le nom que je trouve que Sirens, je trouve ça quand même poche, là, dans le sens que oui, c'est une ville qui ne dort jamais, mais on s'entend que justement, tu sais, ça aurait peut-être pu être un peu plus poussé. Après, c'est dommage qu'en français, une sirène, ça, c'est une sirène, mais en anglais, c'est une mermaid. Donc, il n'y a pas ce lien-là de tu sais, il y a plein de monde qui pensait que des sirens, ça pourrait être des sirènes, mais bon. Donc, c'est ça. Donc, après, moi, j'aime la police avec les S qui sont vibrants, mais tu sais, au final, selon moi, le plus beau logo, c'est celui de Montréal. Mais la seule raison pourquoi Montréal n'est pas numéro un dans mon classement, c'est parce que le nom, je ne le trouve pas bon. Je trouve pas que le nom marche pour une équipe. Peu importe la modification mentale que tu peux faire pour t'adapter à trouver une autre manière de décrire la victoire de la victoire ou la défaite de la victoire. Moi, je trouve justement que ça marche pas. Cet exercice-là mental est juste beaucoup trop poussé quand on va juste demander au monde de rentrer le mot dans la culture. Tu sais, juste pour le CF Montréal, ils ont pas été encore capables de rentrer ça dans la culture. C'est l'impact. Puis l'impact, c'était un branding fort. Le Canadien, c'est un branding fort. La victoire, j'ai de la difficulté à sentir que ça va devenir ce branding fall.
Ben déjà, moi, c'est ça. Tu l'as dit tantôt, mon numéro un, c'est Montréal. De base, quand on regarde, je vous mets deux secondes, regardez tous les logos. Pour moi, le seul qui a l'air d'un logo primaire que tu mets vraiment sur le devant de ton chandail, qui est complet avec des détails, c'est la victoire de Montréal. Fait que déjà là, juste
mais
par
tu
le
vois,
logo,
je pourrais dire que Sirens aussi avec le NY. Moi,
mais
c'est
moi,
là aussi que je vois.
Mais moi, je trouve que vu que le genre Sirens, c'est trop informatif. Mais en tout cas, juste comme dans le sens que moi, en LNH, mon préféré, c'est pas le chandail de New York avec juste New York marqué comme
non,
ça.
Non,
t'sais, Sirens, c'est juste leur nom en police. Même si la police est cool, c'est comme pas un dessin. Genre, c'est comme pas un logo, c'est leur nom en tout cas. Mais Montréal, le logo est magnifique. Puis moi, je sais que les problèmes avec les noms, comment est-ce qu'on va dire, la défaite de la victoire de Montréal, je sais que c'est laid, mais quand on enlève ça, moi, je trouve que c'est un nom vraiment magnifique, puis je trouve que c'est un beau symbole. Là, après, c'est ça. Là, il y a le bémol des médias, mais quand je regarde ça vraiment plus d'un point de vue artistique, là, sans penser à ça, je trouve ça super joli comme nom, puis comme logo. Mais après, c'est sûr que genre, c'est surtout nous, en tant que médias, on n'a pas le choix de le voir d'un point de vue médiatique.
Ouais.
Mais ça reste que c'est un bémol sur le nom, mais je trouve que overall, ils ont fait une très belle job.
Mais en fait, le nom est beau, mais c'est que
Ouais.
si c'était un groupe de musique de femmes qui montrait du féminisme et qui, là, je serais comme, OK, la victoire, c'est fort et tout. Alors que là, je trouve que pour justement une équipe sportive où est-ce qu'ils vont avoir des défaites, en tout cas, c'est là que c'est un exercice que je trouve qui est quand même, en tout cas, ils ont été bold d'y aller pour la victoire. Après, c'est sûr que là, tu sais, il faudrait se dire, OK, non, il faut que la saison prochaine, la victoire de Montréal soit 24-0. Il faut qu'ils perdent
Ben, on sait
aucun
jamais.
match. On ne sait
Effectivement. Philippe
jamais.
Poulin dans ton
Puis
équipe,
avec
là.
Kayla Burns qu'on vient
Ouais.
de drafter, on a peut-être une défense incroyable qui s'en vient. Mais bon, ça pour dire.
Maintenant, on va parler du match des recrues de Montréal. Très belle transition. Mais
Ah
avant de parler des recrues de Montréal, je voulais quand même qu'on parle d'un gars de Toronto, là. Fait que si vous n'êtes pas content, bouchez-vous les oreilles juste une minute. Mais c'est un gars qui a tellement été impressionnant que je t'ai texté pendant le match, on s'est texté, on était d'accord, qui est prêt pour la LNH, puis qui a vraiment un step de plus que presque tout le monde dans le
C'était
match.
le meilleur joueur, Francis.
Ouais, je pense que oui. Ben, même aussi, quand tu parles de comme défensif, on va parler de c'est qui les autres qui sont bons, mais c'est que lui, on parle de Easton Cowan, là. Easton Cowan, ce qui est impressionnant, c'est juste, tu sais, tous les joueurs défensifs, même comme Lane Hutson, qui ont montré des flashs. Oui, il était bon, mais il y avait tout le temps des petits trucs que tu peux aller comme, ah, là, j'aurais pas fait cette décision. Et tu sais, tu vois les choses qu'ils ont à travailler. Easton Cowan, il n'y a pas de flash, là. C'est pas un joueur qui va arriver en LNH, qui va te mettre une première saison de 50, 60 points, là. C'est pas le prochain premier centre de Toronto. Il va pas détrôner Austin Matthews, mais il fait tout très bien. Il dérange dans la zone offensive. Il se place super bien pour des passes. Tout ce qu'il fait est propre, sans avoir rien de particulièrement élite. Fait que pour un match de recrue, il paraît vraiment comme un joueur squeaky clean, si on peut dire
Ouais.
comme ça. Puis, pour Toronto, c'est tellement idéal d'avoir un prospect comme ça. Tu le mets, ce gars-là, bientôt, comme étant ton troisième centre, ou bien
Mon
potentiellement
allié.
quelqu'un qui peut aller remplir des trous, parce que Easton Cowan aussi, ça qui est bien, il peut être centre, mais il peut aussi, être sur les ailes, tellement il s'adapte à ses rôles. C'est le prospect idéal pour la situation de Toronto. Fait que je voulais au moins qu'on le mentionne là, parce qu'il l'a vraiment mérité.
Ben c'est ça, c'est sûrement si cette année il était pour jouer dans la Ligue nationale, ce que moi je crois qu'il peut parce que
Ouais.
il est vraiment justement dans une classe à part. Puis après, c'est sûr que c'est facile d'être dans une classe à part quand tu regardes le line-up de Toronto. Mais vraiment, moi, c'est à quel point il était capable de créer des choses. Tous les jeux passaient par lui. Après, j'ai vraiment aimé Ronnie Hirvonen. J'ai vraiment aimé Fraser Minton. Mais tu sais, Fraser Minton, tu te dis, lui, je le verrais plus comme un centre de troisième trio. Fraser Minton, selon moi, c'est comme le Matthew Poitras des livres. Le joueur qui a un bon plafond offensif, qui est capable de justement jouer rugueux, mais qui va juste être très bon dans les deux centres de la patinoire. Puis, tu sais, Minton, à quel point il est proche de la Ligue nationale, je pense que c'est quand même dans les prochains à faire le saut, mais je mettrais Cowan bien avant
Ouais.
Minton.
Minton, c'est quand même quand il va arriver au camp, on va faire les matchs de pré-saison, on va voir s'il si est prêt. Un peu comme d'autres joueurs à Montréal, là, qu'on va parler un peu plus loin. Mais Cowan, c'est quand moi je vois ce match-là, un peu comme, écoute, on peut le dire déjà, là, Hudson, je pense que pour lui qui grandit son jeu, c'est pas
Non, c'est dans la
c'est
Ligue
plus en
nationale.
junior, c'est plus en AHL, c'est vraiment contre des pros. Puis je pense que Cowan, sa place. Je suis sûr que si tu demandes au gérant de Toronto, est-ce qu'elle est déjà dans l'équipe, il va dire personne n'est déjà dans l'équipe. Mais pour vrai, il est comme à 90% sûr de l'avoir parce que c'est ça le step qui lui manque là.
Puis Cowan, là, ce qui est incroyable, c'est qu'en 2023, quand il était repêché 28e overall, c'était complètement un choc.
Ouais.
C'était les
Il était
Cowan
projeté
dans les listes,
troisième
il était en
ronde.
troisième ronde, fin deuxième, le plus proche de la. Le plus haut, là. Et donc, en fait, lui, là, ce qui est arrivé, c'est qu'il a joué pour les Knights de London. Et les Knights de London, c'est une franchise junior. C'est peut-être la plus grande franchise junior de la Ligue canadienne de hockey. Et ça fait en fait que, à chaque année, t'as des gars qui, comme, mettons, Sam O'Reilly, cette année, ça pourrait être ça, son cas pour l'année prochaine, ils sont cachés dans le bottom six parce qu'il y a des joueurs qui sont juste trop forts dans le top 6 pour pouvoir se développer. Donc, Cowan, il a joué à son année de repêchage. Il a même pas fait un point par match. Il était à 53 points à 68 matchs et un peu passé en dessous du radar de tout le monde. Et là, bam, il se fait prendre en première ronde. Et là, cette année, il brise des records avec les Knights de London. Et vraiment, il était dominant. C'était la force offensive des Knights.
Ah oui.
Il lui reste encore une année d'éligibilité, même deux, là, si on prend en compte les 20 ans. Mais moi, je pense que ce gars-là, comme tu l'as dit, il a besoin de quelqu'un sur la glace qui comprend à sa vitesse le jeu. Et c'est ça, moi, il y en a un autre de Toronto que j'ai bien aimé, qui je pense qui peut surprendre, parce que lui, bon, il est un peu plus âgé, il a 21 ans, mais Nikita Grebienkin, qui lui a joué seulement la première partie, mais lui, il a fait 40 quelques points en 67 matchs l'année passée avec le HAK Bears de Kazan en KHL. Donc, on s'entend, un gars de 21 ans, il a joué contre des hommes pendant une saison, même deux saisons, il était capable de faire 40 points en 60 matchs, qui est vraiment pas une production moindre. C'est le genre de gars que je pense qui peut vraiment surprendre. C'est le genre de gars que si on avait, nous, dans notre organisation, Grebienkin, on en parlerait énormément. Et là, on n'en parle pas.
Et le grand défenseur, il s'appelle...
Tu parles de Cade Weber, l'ancien partner de
Hudson. Aussi, il n'y a pas 10 000 analyses à faire dessus. Là. Il y a un jeu très simple, mais pour une équipe comme Toronto, c'est un gars qui va pouvoir venir sur la troisième ligne puis avoir un peu l'effet Jack Eye qu'on a à Montréal. Ce n'est pas le même type de joueur, mais c'est juste des joueurs qui viennent puis qui te ferment la porte puis amènent de la robustesse à ton équipe. Fait que,
puis même, il était capable de faire une très savante passe, je pense, à Minton.
Ouais, pour le premier but du deuxième match. Maintenant, parlons. Ben, écoute, pour Montréal, je pense qu'il y a beaucoup de positifs auxquels parler, mais on peut commencer à parler un peu plus rapidement de la partie un peu plus plate. L'offensive globale du Canadien de Montréal, des recrues, c'était vraiment axé sur le grind. On dirait qu'il y avait beaucoup de monde qui avait de la misère à se compléter, puis les joueurs qui avaient un peu plus d'expérience que les autres, qui auraient dû un petit peu prendre le lead puis être les leaders offensifs de ce match-là. Certes, on n'a pas eu des matchs dégueulasses, mais on peut réussir à remplir ce moule-là. Je pense que quand on parle du positif dans Montréal, oui, il y en a un peu en offense, mais ça va vraiment être en défense là, qu'on est le plus content, comme on s'attendait quand on a parlé de la liste des recrues. Mais bon, pour parler en attaque, je dis grind, Luke Tuck qu'on a vu au Rocket l'année dernière.
Cette ligne-là au complet.
Ben, c'est ça, cette ligne-là au complet, mais je trouve que Luke Tuck, c'est quand même quelqu'un qui... On l'a dit dans le dernier épisode, il y a 2 ans de plus que J.K. et puis 3 ans, je pense, que Thorpe. Fait que c'est normal qu'il y ait un pied d'avance, mais ce pied d'avance-là paraît vraiment, il est plus intelligent. C'est pas lui qui va aller te créer ton offense, mais il est quand même capable de se participer dedans. Après, si on continue dans cette ligne-là, Thorpe, il m'a quand même surpris, pas par sa robustesse. Quand on regarde un joueur de 6 pieds 5, tu te dis, OK, lui, je vais arriver, puis ce qui va me sauter aux yeux, c'est son physique. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est à quel point est-ce qu'il se déplace bien sur la glace pour un joueur de sa taille. Puis il a marqué, c'est quoi, 2 buts en 2 matchs. En tout cas, il a été...
Un one-timer, puis un jeu en utilisant un peu ses mains.
2 beau jeu, puis tu sais, c'est ça, t'as dit un jeu en utilisant ses mains, Thorpe, c'est ça qui est impressionnant. Est-ce qu'il y a le meilleur patinage? Non. Est-ce qu'il y a la meilleure finition? Non. Mais il est capable, il y a quand même des assez bons atouts dans ces deux aspects-là pour être capable d'amener quelque chose offensivement à l'équipe. Fait que, tu sais, si la partie qu'il a le plus à travailler, c'est son côté offensif, mais il fait 6 pieds 5, fait que je pense que ça va être un peu plus facile. Il m'a vraiment impressionné par ses atouts, puis là, il y a le dernier membre de cette ligne-là, plus Grinder, même si c'est un peu la mode pour l'attaque des Canadiens pendant tout le deuxième match, en tout cas, puis pour un match, c'est Florian Jacquet. Florian Jacquet m'a pas montré tant... Il a pas montré vraiment des habiletés qui font que t'es comme, OK, lui, il va être capable d'amener un grand quelque chose en LNH quand tu le compares aux deux autres qui jouaient dans sa ligne. Maintenant, la grande question avec Jacquet, ça va être, est-ce qu'on le renvoie en OHL avec Brentford, qui vont avoir une grosse équipe, qui vont essayer de faire une grosse saison pour qu'il continue à marquer des buts junior, mais qu'il focus plus sur ses habiletés de finesse, ou bien est-ce qu'on l'envoie en AHL pour qu'il prenne de l'expérience avec les pros?
Ben moi, ce que j'ai aimé de cette ligne-là, là, c'est que de un, je pense que j'avais jamais vu 3 gars de comme 6 pieds 3 et plus avec un seul objectif qui était de frapper et de faire de l'espace. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que justement, moi, dans les 3, j'ai trouvé que Jacky était le plus intelligent. C'est pas justement le gars, encore une fois, les meilleures aptitudes quand on fait juste parler le tir, les passes, le coup de patin, mais il y avait l'intelligence de justement faire le bon jeu pour, mettons, le but de Thorpe, c'était Jacky qui a préparé le jeu. Mais sinon, ce que j'ai vraiment aimé
juste une question pour toi. Est-ce que tu trouves que... Parce que, tu sais, Jacky, moi, quand je donne mon analyse, je dis pas que j'ai pas vu des beaux trucs. Je dis que je vois pas un gars que j'ai l'impression qu'il va être même assez de production pour qu'on le voit, là, un 3-4e trio de LNH. Toi, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un que sa production va s'adapter à ce niveau-là? Est-ce que tu penses qu'il va pouvoir remplir ce trou-là? T'sais, on parle vraiment de spéculation, là, ça dépend beaucoup de son développement, mais comme en prédiction en ce moment.
Mais je pense que ça va jamais être un gars qui produit. Je pense que Jakaï, il est beaucoup trop
mais sur une équipe
agressif.
Qui gagne la coupe, est-ce qu'il pourrait être une 4e ligne?
Que j'ai aimé de justement ce trio-là en fin de semaine, puis je suis pas en train de dire qu'on va avoir une réplique exacte dans 3-4 ans, mais c'est que j'ai vu une ligne qui pouvait avoir une efficacité dans une équipe gagnante, dans le sens que justement, surtout dans le deuxième match, quand on va se le dire, là, le premier match, c'était un peu décousu.
Ouais.
Rendu à la deuxième période, ça a commencé à surprendre, puis troisième, on a commencé à sentir un peu une fusion entre les joueurs, et c'est vraiment au deuxième match que j'ai pu voir plus l'efficacité de chaque joueur ou l'efficacité, parce que là, on pouvait se dire, OK, les gars, ils savent un peu plus sur la glace. Puis cette troisième ligne-là, qui était la troisième ligne en fin de semaine, mais que moi, je vois pas nécessairement comme une troisième ligne dans le futur, mais ils frappaient, ils couraient après, c'est des têtes chercheuses et ils créaient beaucoup de revirements. Il y a une couple de fois, là, que même s'ils jouaient contre le premier trio de l'autre bord, à cause de leur vitesse, puis de leur, comment dire, rudesse, sans créer de punition, a causé des revirements. Puis moi, justement, Jakaï, je pense qu'on s'attend à beaucoup, parce que justement, c'est quand même un gars qui, bon, il y a son frère qui vante son... Harbert vante Florian beaucoup. Mais Florian, c'était le seul des trois, je trouvais, qui avait vraiment plus le rôle de créer le jeu. Torp, il a fait des très bonnes sorties de zone, puis Tuck, c'était souvent le gars pour aller la chercher derrière le but. Mais c'était souvent Jakaï qui devait réfléchir à comment créer le jeu, parce que sinon, les deux autres gars à côté de lui n'allaient pas le créer. Après, est-ce que je suis en train de dire que Jakaï a tout pété? Non, pas du tout. Mais moi, ce que j'ai aimé de ces trois gars-là ensemble, c'est ça, c'est quelque chose qu'on a rarement vu avec le Canadien, et c'est trois gros bonhommes qui frappent et qui courent après la puck. Puis quand je dis qu'ils courent après la puck, c'est que si, dans la zone offensive, ils sont en train de tu sais, mais encore une fois, là, je dis quoi après la POC, puis sincèrement, ça allait à mon prochain sujet de, en zone défensive, ils se sont souvent retrouvés enfermés. Donc, c'est là que, tu sais.
Ouais, mais c'est ça.
Ça va être à voir avec le développement.
Mais c'est pour ça que tu ne le verrais pas comme une future troisième ligne. Si tu regardes la troisième ligne du Canadien en ce moment, tu ne mets pas ces trois gars ensemble, parce que tu sais que même s'ils se complémentent bien en zone offensive, quand ils sont en zone défensive, les sorties de zone, c'est pas la spécialité d'aucun des trois.
Puis pour faire un pont à ma prochaine conversation, qui est un gars qui, moi, je trouve qu'on sous-estime à chaque année, puis c'est Jared Davidson. Puis moi, je pense que Jared Davidson, c'est justement le gars parfait pour être sur un quatrième trio. Vitesse, rugueux, et capable d'avoir une chance de marquer parce qu'il a un excellent tir. Donc moi, un Davidson, là, tu le mets avec un Tuck, Jakaï ou Torp, deux de ces trois gars-là dans le futur, qui se sont bien développés, mettons les deux meilleurs de ces trois gars-là avec Davidson, je trouve que tu pourrais avoir une quatrième ligne très respectable. Donc, je sais pas toi qu'est-ce que tu as pensé de Davidson, mais moi vraiment, là, surtout dans le deuxième match, il avait des ailes. Il créait beaucoup, beaucoup de choses pour son trio. Puis moi, je trouve que c'est un gars qu'on sous-estime énormément. Mais 16 points en 38 games l'année passée avec la NHL.
Mais
sincèrement.
Davidson, c'est juste qu'il s'est fait mettre des bâtons dans les roues, mais que si le Canadien croit vraiment à ce qui marche, il faut qu'il lui donne une vraie chance. Puis l'année dernière, on n'a pas vraiment vu ça. On a vu des petits flashs. Puis quand il jouait plusieurs matchs, ça marchait bien. Moi, je veux bien, mais faut qu'on le teste pour vrai. Faut qu'on lui fasse un peu plus confiance cette année à Laval. Puis avec tous les vétérans qu'il y a à Laval cette année, oui, il y a pas mal de jeunes qui arrivent, mais j'espère qu'on va donner un vrai shot à Jared Davidson. Sinon, deux autres gars en offense avant de switcher à vraiment la partie qui est plus excitante. Owen Beck, qui est connu pour avoir des bons camps, a eu des matchs solides, mais quand on le fait jouer avec des jeunes comme ça contre d'autres jeunes, ce qui paraît vraiment apparent, c'est que Owen Beck, c'est pas le gars qui va aller faire les choses tout seul. C'est pas celui qui va être le... Il fait plein de beaux petits jeux, sauf que quand il est pas avec des joueurs qui ont l'intelligence d'aller récupérer la rondelle, qui ont là... Tu sais, un moment donné, il l'a laissé droit devant le filet, puis ses deux ailiers, ben, se sont pas allés parce qu'ils s'attendent pas à que ça soit ça. Tu sais, t'as pas vraiment des beaux jeux intelligents comme ça en junior, ou bien quand t'en as, c'est rare. Je pense que c'est vraiment un gars que je le sais que c'est un gars que j'ai vraiment hâte de voir jouer avec des joueurs intelligents, parce que c'est vraiment une très belle pièce complémentaire, sauf que quand on le met avec des recrues comme ça, il y a de la misère un peu à bien paraître, parce que c'est pas lui qui va faire l'entrée de zone en l'amenant au filet, c'est lui qui va travailler pour garder la puck dans la zone offensive, qui va travailler pour mettre ses coéquipiers dans des situations de marquer. sans aller faire le but lui-même. Puis sinon, je pense le joueur qui m'a le plus déçu du camp, ça serait Mesher, Flip Mesher. Ben du camp de rookie. Encore une fois, on le répète à chaque épisode, on n'abandonne pas. Il y a encore un peu d'espoir. On va voir cette année à Laval. Mais même contre des recrues, on a vu des petits flashs. Des fois, il fait une belle entrée de zone. Son premier move marche super bien, puis c'est son deuxième move qui rate.
Mais moi, c'est ça. J'avais aimé ce que tu m'avais dit justement pendant le match, que Mesher, c'est des beaux flashs. Tu vois la qualité de « OK, ce gars-là, il a été repêché dans la première ronde » parce que tu vois qu'il y a des mains supérieures.
Ouais.
Il y a une bonne vitesse.
Puis, en ligne droite, quand il s'est échappé à la fin du premier match, là, son positionnement, puis après, ça n'est pas pire.
Mais ça, c'est une très bonne. Ça, là, sincèrement, cet échappé-là, c'est une très bonne représentation de Mesher. Il a trouvé la manière de se démarquer. Il l'a amené jusqu'au filet, mais sa force physique a fait qu'il n'était pas autant à l'aise. Et par la suite, encore une fois, c'est ça. Il fait des beaux jeux, mais ça finit jamais. Ça finit rarement.
Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'il faut? Parce que c'est pas comme Thorpe, là. Son archétype de joueur demande un talent de production offensif, pas élite, mais pas très bon.
Mais cher, pas de plan B.
Non, c'est ça. C'est soit tu produis en LNH, soit un peu comme on parlait de Farrell. Farrell, quand on regarde le match, il était super intelligent. Encore une fois, il skate super bien. Ah oui, des fois, il fait des belles passes, mais ses actions ne résultent pas en début. Si Farrell.
À part la passe à Mayu, mais ça, c'est un jeu.
Mais contre des recrues, quand Farrell a 22 ans, tu t'attends à ce que ça soit quand même quelque chose de plus. Tu sais, quand tu regardes, admettons, l'habilité de Beck à supporter son trio, c'est quelque chose de plus que les autres. Farrell, ses habiletés, il y a des petits trucs qui sont de plus. Son placement, son skating, mais. Puis, ça finit pas en début. Mesher aussi, il y a des petites habiletés qui sont plus que les autres recrues, mais est-ce que ça se concrétise en points, en buts, en vraies chances de marquer? Non. S'il veut une place en LNH, il va falloir que ça se concrétise. Fait qu'on croise les doigts pour l'année prochaine en AHL, mais j'y crois moins qu'avant. Pas juste à cause de ce match-là, à cause de, tu sais, on l'avait dit avant le camp aussi, là. C'est son année pour le prouver parce que c'est les mêmes problèmes depuis certaines années. Puis, je te laisserai, nous lancer dans la défense, parce qu'on a beaucoup à dire, je pense, sur la défense. En finissant avec quand même une mention honorable à surveiller pour le vrai camp, Savoie, Charles Savoie, qui a eu deux très bons matchs, qui travaille fort, qu'on pourrait fort probablement voir ça serait pas improbable de le voir dans un chandail du Rocket l'année prochaine. J'ai beaucoup aimé ses matchs.
Ouais, c'est ça. J'ai aimé ses matchs. Il a fait trois passes qui sont probablement trois passes très chanceuses, dans le sens que la première, c'est une passe ratée qui revient sur sa palette. Et ensuite, il y a quand même la vision de jeu pour l'envoyer à Engstrom. Ouais. Et après, bon, la passe pour le but magnifique de Mayu, ça a été vraiment encore une fois une passe ratée qui se ramasse. Puis là, Mayu, il fait un tir incroyable.
Mais il travaille fort,
c'est un bon centre.
Pour la AHL, ça serait bien.
Mais tu sais, je pense pas qu'il faut voir en Charles Savoie un futur joueur du Canadien de Montréal. Mais comme on le dit souvent, puis comme plusieurs avaient des critiques vis-à-vis les choix de septième ronde ou de sixième ronde, pourquoi pas y aller chercher un jeune Québécois que au pire, il va venir et être fier de représenter le Rocket ça va être la patrie. Donc, c'est ça, il va tout donner.
Un Danick Martel, un Gabriel Bourque.
Exactement. Donc, tu sais, fait que là, c'est ça. Je pense que pour l'attaque, on a pas mal fait le tour. Tu sais, on parle du camp là, qui va commencer, le vrai camp. Et là, Tyler Thorpe n'a pas été invité. Donc, c'est rien
contre lui.
Il n'est pas signé non plus. Il a 19 ans. Je pense qu'ils se sont dit, Thorpe, tu nous as montré de belles choses. Va continuer en junior.
Il faut une autre année.
Tu n'as même pas des chances de... C'est ça, tu n'as même pas comme l'espoir de... Donc, moi je suis pas contre ça. Je veux dire, c'est dommage qu'on n'ait pas vu plus. Peut-être qu'après la fin de semaine, on pouvait
essayer de... Un match de pré-saison, admettons, mais tu sais, c'est pas...
Même rendu là, on a moins de matchs de pré-saison.
Ouais.
Donc, c'est là que tu vas te dire, OK, ben, tu as besoin de moins de gens au camp parce que t'as moins de
quand flexibilité. On enlève la logistique, juste ça aurait été le fun de le voir jouer contre des gros joueurs LNH que versus des recrues, mais la décision est compréhensible puis c'était à s'y attendre 100%. Là.
Mais bon, on va switcher de sujet. Bon, ben, c'est pas de sujet complètement, mais on va changer de l'attaque à la défense et on en avait parlé la semaine passée. Tout le monde en parlait, là, c'était quoi le gros highlight de ce camp de recrues? C'était les quatre défenseurs, donc Engstrom, Hudson à la gauche et Renbacher, Mayu à la droite, ce qui tombe bien parce que enfin on a des espoirs à la droite et à la gauche qui justement on Moi, je n'ai pas été déçu du tout. Je pense que Rainbaker, c'est un joueur que beaucoup de
Comment
gens voient qui est un cinquième overall pick. Donc, s'attendre à un joueur flashy. Mais moi, ce que j'ai bien aimé à un moment donné, c'est que j'avais vu sur Twitter, là, c'était quelqu'un qui disait que Rainbaker, si tu es déçu de comment il a joué en fin de semaine, le problème n'est pas l'espoir, mais l'observateur. Puis moi, je trouve que c'est exactement ça parce que Rainbaker n'est pas un gars qu'on va entendre son nom
Non, non.
par RDS. On va pas entendre son nom, mais c'est des petits détails. Le bâton à la bonne place, le positionnement, le coup de patin qui fait que l'adversaire est toujours coincé avec
On
Rainbaker.
s'est
Il
fait
faut s'attarder à son jeu pour le voir.
conditionner un peu à Montréal, si on peut dire ça comme ça, avec les défenseurs offensifs. Tu sais, la saison dernière, on parlait de la production de Mailloux. Là, on regarde le camp, on a Bichop qui nous le dit aussi. Hudson est NHL ready, puis Hudson, c'est quelqu'un qui a du flash, qui a du flair. Il n'est pas connu pour être le plus responsable défensivement. Alors maintenant, on se fait mettre en plein milieu de ces joueurs-là, un Rainbaker qui, lui, sa grande qualité, c'est que justement, tu ne le remarques pas.
Non.
Tu vas jamais finir un match en disant, hey, Rainbaker nous a fait perdre le match avec une mauvaise passe. C'est le joueur là qui va venir un peu te fermer l'attaque de l'autre équipe, qui va être ton deuxième, troisième défenseur, shutdown, tranquille, qui relance bien l'attaque sans être le primary assist. T'sais? Puis c'est bien correct, on en a besoin. Toutes les équipes ont besoin de joueurs comme ça.
Non, puis Rainbaker, oui, il en a fait des erreurs en fin de semaine, puis je pense que ça va juste venir avec la maturité qui va il va décider. C'est quoi le bon jeu à faire? Il y en a fait des passes là, que ça se sont fait intercepter dans la zone offensive et tout. Mais ensuite, c'est ça. Encore une fois, vous le savez, on n'était pas les plus grands fans de Rainbaker, mais quand tu le regardes, puis tu regardes comment l'équipe est construite, puis
Quand on
un gars
regarde
comme Rainbaker,
qu'on a eu des mid-offs aussi à
on
la
a eu
place de
Demidov,
Mechtov,
c'est
là.
ça. C'est ça. Donc, après, c'est sûr que c'est ça. C'est pas le défenseur. Il y a même des gens qui disaient peut-être que c'était Pietrangelo et tout. Il est peut-être moins flashy que Pietrangelo, mais ça va être le gars qui va faire le bon jeu. Puis moi, j'étais avec un ami à la deuxième partie et à un moment donné, on parlait de Rainbaker. Puis je l'ai fait juste se concentrer sur, comme je dis, juste son positionnement du bâton, son positionnement lui-même de son corps, la manière qu'il se met en un contre un. Et il est toujours à la bonne place. Il
Ouais.
va toujours faire le petit jeu qui empêche le tir, qui empêche la bonne passe. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas parce que les jeux ne se créent pas. Contrairement au défenseur que moi j'aimerais passer, puis Trapp en a parlé, mais
Bon, ouais, voilà.
Hudson est le joueur que tu remarques. Hudson est le joueur qui fait élever la foule dès qu'il touche la rondelle comme Subban le faisait. Il y a quelque chose de spécial qui se passe dans le Centre Bell, là. C'est tout d'un coup, là,
Nice.
tout le monde se lève, ou tout le monde est sur la pointe des pieds. Il y a quelque chose qui se passe. Sincèrement, Hudson, c'est ça, comme tu l'as dit tantôt pour Cowan. Selon moi, même s'il n'est peut-être pas le plus rendu à la Ligue nationale, parce que je pense que c'est Mailloux le plus proche, mais Hudson ne peut pas jouer avec des joueurs de la AHL
Non.
parce qu'il a besoin de gens qui vont
Mais
comprendre son style
Mailloux,
de jeu.
pour arriver au point où on est aujourd'hui, pour qu'on dise que c'est le plus proche, il avait besoin de son année
Il avait
d'NHL. On
besoin.
l'a vu faire des niaiseries l'année dernière
Ouais.
au camp, on l'a vu faire des niaiseries en AHL. Puis là, maintenant, on arrive avec un joueur qui est capable d'être solide défensivement. C'est à ça que ça sert une année en AHL. Sauf que Hudson, lui, ça lui aide pas parce que c'est pas des gros plaquages qu'il a besoin de faire. Il n'a pas besoin d'apprendre d'être shutdown.
Non.
Hudson, l'aspect offensif, il est là, tu sais, il faudrait être aveugle pour pas dire qu'il est là. Sa confiance, il l'a. Je pense pas que c'est un joueur qui va être chamboulé par une ou deux mauvaises performances pour commencer la saison, admettons, là. Je pense qu'il est solide, il croit en lui. Maintenant, c'est des petits détails qu'il faut travailler. Quand est-ce que tu décides de t'avancer? Quand est-ce que tu décides de faire la passe? Puis j'ai vu dans le podcast SLH, je parlais aussi de, tu sais, dans le camp des recrues, c'est des joueurs qui jouent leurs deux premiers matchs ensemble. C'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, pour la plupart, là. Quand Hudson fait ses moves en LNH, si vous regardez à la fin de la saison régulière dernière, il était plus impressionnant que dans le match des recrues parce que il y avait des gens qui s'ouvraient. Quand il fait son petit move, la ligne de passe, il n'y a pas besoin de lui toute la créer. Il y a quelqu'un qui se place pour être capable de réceptionner sa passe. Puis c'est important aussi de mentionner que la ligne Mailloux-Hudson, c'était un test aussi. C'est deux défenseurs qui, à la base, sont offensifs. Donc, c'est une ligue qui est. Qui est faite un peu pour qu'il y ait des erreurs, tu sais, pour voir à quel point ça marche. Puis cette ligne-là avait juste donné un plus-minus de moins 4. Ça n'aurait pas voulu dire que les deux joueurs sont à chier. Ça veut juste dire que peut-être que finalement, il y en a un des deux qui est moins prêt à avoir un rôle défensif. Puis finalement, Mailloux a été quand même capable de remplir ce rôle-là en allant quand même, tu sais, à participer à l'offense. Fait que je pense que c'est un test réussi, même si on a vu certaines erreurs. Mais Hudson, c'est des détails. Puis, ce qu'on s'était dit aussi après le match, puis moi, ce que je trouve qui est vraiment le fun dans Hudson, on parle beaucoup des erreurs quand on va regarder, admettons, les fans des autres équipes qui disent « Hey, Hudson est overrated, regardez l'erreur qu'il a fait. » Si tu mets souvent le clip au complet, c'est qui va aller récupérer son erreur? C'est lui. C'est lui qui est capable de se battre super fort pour retourner, qui a utilisé sa vitesse pour se replacer. Puis là, c'est sûr que son placement en zone défensive n'est pas tout le temps parfait. Son couvrage de joueur n'est pas tout le temps parfait. Fait que c'est sûr qu'à la fin de la journée, des fois, il va causer un but. Mais il travaille fort pour récupérer ses erreurs, puis ça voit que c'est un gars qui est là pour travailler, là, pas juste pour flasher en zone offensive, puis après ça, il s'en va dormir.
Non, puis c'est ça, je pense que tu as tout dit, mais dans le sens que juste l'année passée, on l'a vu à un moment donné avec Anderson, il était en même temps sur la glace avec Hudson, et Anderson n'avait pas la vision de jeu pour comprendre le jeu que Hudson est en train d'essayer de préparer off-puck. Anderson n'a pas fait la passe à Hudson, alors que Hudson s'était libéré complètement, donc c'est ça. Hudson a besoin d'être avec des gars comme le premier trio et peut-être le deuxième trio cette année aussi parce qu'il devrait être meilleur. Mais il a besoin d'être avec des joueurs offensifs qui comprennent la game. Hudson et Roy vont se comprendre sur la patinoire. Je suis en train de dire que les joueurs du Rocket c'est tout sont tous niaiseux. Là. Mais c'est pas le même step. Puis la AHL, c'est ça. Mais il y a plusieurs goalers qui ont dit que c'était plus difficile de jouer dans la AHL que dans la LNH parce que dans la AHL, c'est un peu imprévisible, alors que dans LNH, t'as plus de.
C'est plus cérébral.
C'est ça. C'est plus cérébral, mais si, c'est ça. Les joueurs sont beaucoup plus matures, sont plus pro. Et le dernier, ben, c'est Adam Engström.
Ben, c'est ça.
Qui vraiment est un inconnu pour la plupart des gens. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir voir un ou deux games de lui de avec Rogla l'année passée, mais bon, on s'entend qu'une ou deux games, c'est pas avec ça que tu fais une analyse complète. Mais moi, ce qui m'a épaté de voir en vrai, parce que je le savais, je l'avais vu, mais c'est sa mobilité et la confiance qu'il a avec la rondelle. Comme Francis Bouillon, il disait, on va préférer un défenseur qui a la rondelle, qui la garde et qui essaie de faire un jeu qu'un défenseur qui, dès qu'il l'a, va juste la dumper pour pas faire le mauvais jeu. Donc, c'est sûr qu'Engstrom, il doit passer par la AHL. Je pense que c'est évident, mais vraiment, là, 6 pieds 2, un coup de patin comme ça et vraiment l'apport offensif qu'il peut amener va vraiment, vraiment être important. Mais on sait jamais parce qu'on a tellement de joueurs.
Mais il pourrait avoir une certaine. En plus, c'est drôle là, parce que Mayu, finalement, on devrait en parler, mais on a tellement parlé de lui que c'est comme si on avait parlé sans parler. Sans mais parler. Engstrom, ça va être un peu le même pattern que la même étude qu'on a vue de Mayu l'année dernière. Donc, un joueur qui arrive, qui monte des super beaux flashs, mais qui n'est pas encore tout à fait prêt pour la LNH. Puis lui, ce qu'il faudrait, c'est aller en AHL. Moi, à mon avis, Engstrom a tout ce qu'il lui faut pour faire une année quand même productive en AHL. Puis c'est pas quelqu'un qui va se faire intimider un peu en AHL. Tu sais, physiquement, il paraît grand, puis il a du muscle, il fait 6 pieds 2. Fait que c'est quelqu'un qui pourrait arriver, travailler un peu son aspect défensif en AHL, avoir une saison productive en AHL. Puis l'année prochaine, ben, on en reparlera pour l'équipe du Canadien, parce que c'est vraiment quelqu'un que justement, il pourrait avoir la même courbe de développement que Mayu. Une année en AHL pour perfectionner ton jeu, l'année prochaine, tu pourrais avoir une place. Puis c'est quelqu'un qui pourrait dépasser, je pense à peut-être Jaden Struble, tu sais, dans l'alignement du Canadien, parce que Adam Engstrom, si on travaille un peu son jeu défensif, s'il frappe fort, tu sais, puis il ne frappera jamais autant fort que Jaden Struble, mais si on peut le rendre quand même, safe défensivement, il y a l'apport offensif que Jaden Struble n'a pas, fait que ça serait un gros atout pour lui pour justement venir dépasser quelqu'un dans l'alignement l'année prochaine.
Puis bon, Fener, c'est sûr qu'on aurait bien ça parler des gardiens, mais bon, malheureusement, Quentin Miller s'est blessé et donc ça a fait un peu que justement, il n'y avait aucun défenseur de l'organisation. Puis bon, je ne veux pas m'étonner, mais dans le sens que ça a paru. Les deux matchs, justement, le premier tir, ça rentre. Ensuite, c'est sûr que ça donne pas confiance aux défenseurs. Donc, encore une fois, les matchs de recrues, faut pas penser qu'une recrue qui sort de nowhere ou qui épate tout d'un coup un défenseur ou un joueur qui déçoit va tout d'un coup être un boss. On s'entend là? Il y en a plein des joueurs qui passent puis qui jouent deux matchs incroyables, mais qu'après on les voit plus jamais. Donc, nous, encore une fois, comme on dit, c'est une analyse très sommaire. C'est aussi basé sur nos attentes, pour ce qu'on en a parlé la semaine passée.
Et les analyses qui sont avant. Tu sais, tu te fais une image d'un joueur, puis là, tu arrives. Méchard, on avait dit, on veut qu'il attaque plus le centre. Tu arrives au match des recrues. il attaque pas le centre. Bon, c'est sûr qu'on va en parler, mais est-ce que ça a changé la prédiction qu'on avait pour Mecher? Non, on savait qu'il y aurait des problèmes avant la saison, que ça serait difficile en NHL. Tu regardes le match des recrues. Bon, je pense que ça va être difficile en NHL, tu sais.
C'est ça. Fait que bon, ça pour dire que là, on a la liste des joueurs invités. Comme on l'a dit, Tyler Thorpe et Owen Prutz n'ont pas été invités à continuer le camp. En fait, là, ils ont mm-hmm. été redirigés
c'est
vers
leur
équipe.
C'est drôle qu'on est là, le roster complet est sorti, puis Olivier Kapanen qui est dedans. C'est drôle qu'il l'ait pas invité au showcase des recrues.
Il y avait une raison, mais je m'avais
pas. Ok, fait qu'il était pas dispo. Mais bon, Olivier Kapanen, de toute façon, qui était même s'il avait fait deux matchs horribles au match des recrues, il aurait été dans l'alignement du Rocket ou bien dans le pire des cas Trois-Rivières. Mais c'est un gars qui va aller au Rocket l'année prochaine. Ça va être excitant à voir. Sinon, c'est tous des joueurs qu'on connaît, quelques additions de plus pour le Rocket, des joueurs d'expérience, là, 25, 26, 27, 28 ans. Dans les gardiens de but, on a Hunter Jones, rien prouvé encore. Là, c'est un joueur qui a beaucoup joué en ECHL, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a juste 23 ans, puis c'est un choix de deuxième ronde en 2019. Le choix de ronde en 2019, ça veut comme plus rien dire maintenant, mais bon, ça veut dire qu'à un certain point dans sa carrière, il avait quand même été considéré comme un prospect haut, fait que j'ai hâte de voir qui va réussir à avoir. Ça, on le disait tantôt, Montembeau et Primo, c'est sûr que c'est à Montréal. Dobège va peut-être aller faire des petits tours à Montréal, mais ça va être le numéro un à Laval. À tous les autres noms, Cavalin, Jones, Hugh, il y en a des plus vieux, il y en a des plus jeunes, mais qui va avoir le rôle de backup, deuxième gardien à Laval? C'est ça qui va être le fun à voir au camp avec tous les gardiens qui sont là.
Ouais, je pense que les gardiens que cette année, on voudra pas de comment dire
de trépas trois
ça, ouais c'est ça le terme là me semble de, en tout cas de non c'est pas ça le terme qui en pas là mais c'est en tout cas le comment on appelle ça le que j'ai oublié le gardien national je pense que ça on va
non,
le laisser
mais de toute façon Daubèche est pas prêt il a commencé à se chauffer à la fin de la saison dernière il y avait l'air plus en confiance ça a été un tout petit peu plus dur au début mais à la fin on avait vraiment l'air d'avoir un gardien qui était prêt à prendre le rôle en AHL mais LNH peut-être, comme j'ai dit, s'il y en a un des deux qui se blesse, ça va être lui qui va être appelé. Mais de là à être...
Non, puis Connor Hughes est comme un peu à son âge où est-ce qu'il est au pic, là, dans le sens que à 28 ans, un gardien est dans ses meilleures années. Donc, il pourrait surprendre parce de ce que j'ai vu des commentaires de Lausanne en Suisse, Connor Hughes a permis à l'équipe de se rendre en finale ou même de gagner le championnat. Donc, vraiment...
Safe percentage de 9,40, je pense,
l'année dernière. 9,43 en finale. En série, là.
Il y en a certains qui disent que c'est la troisième meilleure ligue au monde après.
Donc, en tout cas, il peut nous surprendre. Ça pourrait sûrement être un très bon gardien dans AHL avec Daubèche. Puis là, ça ferait que les autres gardiens se remorceraient dans la ECHL. Mais bon, c'est vraiment, selon moi, la position qui est le moins causer de surprise. Mais tu as parlé de Oliver Kapanen, puis moi, je vais en parler vite, là.
Ouais.
S'il ne fait pas l'équipe du Canadien, il retourne dans la SHL. Il ne retourne pas. Il va aller dans la SHL. Lui, son contrat, c'est ça. C'est s'il ne fait pas le Canadien, c'est la SHL. Où est-ce que c'est son père, le DG et le coach? L'année passée, Kapanen a joué dans la Liga, donc la Ligue de Finlande. Mais vraiment, Kapanen s'est développé énormément dans les dernières années. Il ne faut pas oublier que c'est un choix de deuxième tour en 2021. Donc, il y a quand même des espoirs sur lui depuis longtemps dans l'organisation. Et vraiment, il a augmenté il a forcé la main de son coach l'année passée pour jouer plus. Il a monté dans le line-up et est devenu vraiment on l'a vu là, il a été invité au championnat mondial pour l'équipe de Finlande. Il a joué pour l'équipe de Finlande. Donc vraiment juste ça, c'est des exploits quand même très, très, très
importants.
Et en série de la Ligue de Finlande, il a fait 14 points en 13 matchs. Et il avait fait 34 points en 51 matchs. Donc vraiment, Kapanen, selon moi, c'est un joueur qu'on ne connaît pas et qui pourrait surprendre énormément et venir peut-être forcer la main à Kent Hughes de faire un échange de Vorak ou peut-être un Jake Evans, même si Jake Evans a l'air plus important aux yeux de l'organisation du Canadien que Vorak. Mais c'est ça, moi je pense que si on devait vraiment avoir une surprise cette année, ce serait Oliver Kapanen. Je pense que Owen Beck, il a besoin de la AHL, mais Kapanen, je pense qu'il peut venir prendre.
À voir. Ouais. Owen Beck, ça serait vraiment juste que s'ils le font jouer en AHL, je trouve que ça serait une erreur, admettons, de le faire jouer sur un troisième trio avec deux grinders, comme on a vu au camp des recrues, parce que ça va donner une saison peu productive, avec des flashs difficiles à trouver. On va avoir l'impression qu'il crée des turnovers en zone offensive, alors que c'est juste les autres joueurs qui n'ont pas la... Mais tu sais, avec un Guignac, par exemple, Mais Charles, si ça marche bien, ça pourrait être des choses intéressantes. Mais bref, ça reste à voir. Puis Beck et Kapanen, on va les voir dans les camps, dans les matchs, dans les 6 matchs de pré-saison. Et on fait confiance à Martin Saint-Louis pour s'il trouve que Beck est le plus proche pour la NH, qu'il échange Dvorak puis qu'il prenne Beck. S'il trouve que Dvorak est le meilleur, qu'il garde Dvorak. Puis s'il trouve que Kapanen, c'est ça qu'il veut faire, ben, qu'il fasse. Mais je dis Martin Saint-Louis, mais Martin Saint-Louis et Ken Hughes, là, ils vont s'en parler entre eux, là.
Donc, sur ce, on se voit la semaine prochaine. La saison pré-saison aura commencé, donc on aura encore plus de détails et il y aura d'autres sujets qui vont
La GMQ recommence vendredi, donc on va pouvoir parler de LCH, de quoi s'attendre, peut-être parler un peu des prospects à regarder pour le repêchage bien en avance, à voir. Puis on a aussi des invités qui s'enlignent. On commence tout le temps la saison, juste les deux en parlant un peu. Peut-être qu'il va y avoir deux autres semaines comme ça, mais on essaye d'enligner des invités pour dans le mois d'octobre, ça devrait. On croise les doigts.
Donc sur ce, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Facebook et Instagram. Vous pouvez voir les liens en bas ici de l'écran en bas à gauche. Sinon, justement, continuez à liker, commenter. Ça fait toujours plaisir de voir de l'activité dans le chat.
Merci à tous ceux qui ont commenté. Merci à tous ceux
qui étaient là. Donc, Pitch Rap, Jean-Sébastien Millette, Philippe. Donc, merci. Éric Fleury aussi, ici, qu'on n'a pas dit.
Un beau commentaire.
Merci beaucoup. Éric. Donc, c'est ça. On se voit la semaine prochaine.
Bonne soirée.